On arrive donc au cinquième volet de notre découverte des béatitudes qui se trouvent dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et vous vous rappelez qu'on avait vu précédemment que heureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'heureux sont les affligés, car ils seront consolés. Qu'heureux sont les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Qu'heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est vrai qu'il est intéressant de noter qu'il y a une sorte de progression logique dans l'ordre des béatitudes et que chacune, eh bien, nous mène un pas plus loin dans notre cheminement à devenir des disciples accomplis. Et nous avions vu précédemment qu'il fallait savoir se reconnaître pauvre spirituellement, reconnaître la tristesse de son péché, vivre dans l'humilité et la douceur, et avoir constamment faim et soif de justice pour pouvoir alors arriver à un statut de femme et homme et d'homme miséricordieux. Et c'est ainsi que la cinquième béatitude se présente ainsi: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et toutes ces béatitudes caractérisent un peu les facettes du chrétien, chacune à leur manière. Et le chrétien peut se les approprier en s'appliquant à suivre les enseignements de Jésus et en laissant le Saint-Esprit opérer en lui le vouloir et le faire. En laissant le Saint-Esprit opérer en lui le vouloir et le faire. Et c'est alors que nous pourrons alors nous approprier cette déclaration de l'apôtre Paul que nous avions vue la dernière fois, n'est-ce pas ? Et qui doit être la nôtre également. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est désormais Christ qui a le contrôle de ma vie. Et le Saint-Esprit habitant en moi est au centre de mon être. Il agit au centre de ma personnalité. Et notre attitude, nos agissements seront simplement la résultante de notre nouvelle nature reçue de Dieu par le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint se révélera alors à travers nous par notre manière de réagir à toutes les sollicitations de notre entourage. À travers ces béatitudes, Christ met l'accent sur l'intérieur. Et ce ne sont pas les actions extérieures qui intéressent notre Seigneur, sauf lorsqu'elles proviennent du fruit de l'Esprit, basé sur une motivation intérieure pure. Parce que seul l'attachement à la justice de Dieu dans notre cœur aura pour fruit des pensées et des actions justes. Mais des actions, si bonnes soient-elles, qui ne correspondent pas à une réalité intérieure, équivalent à du légalisme. Équivalent à du légalisme tel que le vivaient les pharisiens à l'époque de Jésus-Christ. Dieu n'a que faire de nos bonnes œuvres d'apparence si elles ne sont pas pures. Et c'est ainsi qu'excédé par son comportement, Dieu disait à son peuple, à travers son prophète Amos: je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous vous présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. C'est fort, n'est-ce pas ? Il dira également, à travers son prophète Ésaïe: qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel ? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Et quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Jésus, lorsqu'il enseigna ses béatitudes, se trouvait devant une foule qui ne donnait de l'importance qu'aux apparences extérieures, jusqu'à la décrire comme des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Et c'est ainsi que le Seigneur va nous rappeler à travers cette cinquième béatitude la profondeur que doivent avoir nos actes. Ce que les hommes voient et veulent faire paraître est une chose, mais ce que Dieu perçoit en est une autre. Jésus accusait les pharisiens de vivre cette double vie. De l'extérieur, ils voulaient bien paraître, alors qu'en réalité, l'intérieur était rempli d'ossements de mort. Et combien cela peut nous rappeler ces paroles de Dieu prononcées à l'attention de l'église de Sardes en Apocalypse 3:1, qui leur disait « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Oh, terrible, n'est-ce pas? On est bien loin de ce qu'on voudrait attendre et entendre d'une église. Et les paroles du Seigneur en Ésaïe 29:13 exprimaient bien aussi cette désolante situation de ce peuple qu'il s'est acquis, où il disait « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Lorsque Dieu examine ma vie, est-il dans la capacité de sentir que je suis une personne selon son cœur, à l'image de David, ou ne voit-il qu'un simulacre de bonnes paroles, un simulacre de bonne conduite? Dieu ne prend aucun plaisir aux offrandes d'une personne dont la piété n'est qu'une façade. Et ce passage montre donc que nous pouvons prendre activement à l'œuvre du Seigneur, ou avoir l'impression de faire des choses pour la gloire du Seigneur, et avoir pourtant un cœur qui se trouve à des années-lumière de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et c'est intéressant de noter que cette cinquième béatitude, elle découle logiquement des quatre premières, tout simplement parce que ce n'est seulement lorsque nous aurons été brisés, affligés, humiliés, affamés et assoiffés de justice que la miséricorde à l'égard des autres pourra prendre naissance. La miséricorde devient un fruit de ces attitudes intérieures que nous avons pu voir précédemment. Et ce qui est important à savoir pour tout enfant de Dieu, c'est que la miséricorde est un élément essentiel, voire indispensable dans sa vie, et que Dieu attache de l'importance à la qualité d'être miséricordieux. La miséricorde a plus de valeur aux yeux de l'Éternel que n'importe quel sacrifice qu'on pourrait lui offrir. Il nous le déclare ainsi en Osée 6, verset 6, « Car je prends plaisir à la miséricorde et non point au sacrifice, et à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » L'offrande des sacrifices représente l'extérieur de la religion, la face visible de l'iceberg. On tue un mouton ou un taureau, puis on l'offre en sacrifice à Dieu, mais cette activité peut se réduire à une question de formalité, tout simplement, sans que la disposition du cœur corresponde à la signification de l'acte extérieur. Et Dieu nous dit que ce ne sont pas les sacrifices que je désire. Ce que je veux, c'est la miséricorde dans vos cœurs, dans votre cœur. Ce que je désire, ce sont des hommes et des femmes dont le cœur a été transformé par la grâce de Dieu et qui peuvent traiter les autres avec miséricorde. Vous savez, miséricorde, en grec, la langue du Nouveau Testament, eh bien, miséricorde se dit éléos, et dont la définition serait bonté ou bonne volonté envers le malheureux, envers le misérable, envers l'affligé, joint un désir vraiment sincère de les aider. La miséricorde, c'est aider quelqu'un d'affligé ou cherchant de l'aide. C'est apporter du secours au misérable, mais avec une grande consonance de piété envers l'autre, envers son prochain. Et d'ailleurs, le mot miséricorde vient de deux mots latins, n'est-ce pas, qui associent à la fois misère et cœur. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans son cœur, eh ben, il a vu notre misère. Et sa miséricorde s'est déployée envers les coupables que nous sommes. Elle s'est manifestée en faveur de ceux qui, ne méritant que le jugement et la condamnation, ne sont pas dignes d'être aimés. Sa miséricorde s'est exercée envers ces êtres misérables que nous sommes, qui inspirent piété et compassion. Et Dieu a vu l'état dans lequel nous gisions, n'est-ce pas ? En Éphésiens 2:1, c'est ainsi que nous sommes décrits. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit, maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et alors que nous étions moralement morts, incapables par conséquent de sortir de cette condition misérable, ben Dieu a eu compassion de nous parce qu'il est riche en miséricorde. Et ce passage d'Éphésiens 2 continue ainsi. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. En Jésus-Christ. Dieu fait miséricorde aux hommes car il ouvre son cœur à toute notre misère. Et ce qui est merveilleux, c'est combien la miséricorde de Dieu est visible à travers toute sa parole. Et les termes miséricorde et miséricordieux apparaissent plus de 300 fois dans la parole, tout en remarquant qu'ils sont souvent employés en parallèle avec le sujet du péché et plus spécifiquement avec les conséquences du péché. La façon dont Dieu traite le problème du péché, notre péché, implique sa miséricorde. La miséricorde de Dieu devient en quelque sorte un antidote, l'antidote du poison que constitue le péché dans la vie des hommes, n'est-ce pas ? La miséricorde divine se montre dans le contexte de la misère humaine face à son péché. Et combien dans l'Ancien Testament, la première manifestation de la miséricorde, de l'amour de Dieu, apparaît à la création du monde et de l'homme, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden où il fait preuve de sa miséricorde, de son pardon face au péché d'Adam et Ève. Et à plusieurs reprises aussi, il montre sa miséricorde, sa piété et sa fidélité à l'alliance faite avec le peuple élu, avec Israël. Et dans le Nouveau Testament, l'ensemble du Nouveau Testament est une parabole de la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ en étant la plus grande manifestation. Jésus parle de la miséricorde de Dieu dans ses enseignements, dans ses paraboles, en particulier dans celle du bon samaritain, de la brebis égarée, de la drachme perdue, ainsi qu'au sujet du Père miséricordieux. Jésus nous montre dans chacun de ses actes comment vivre la miséricorde au quotidien. En pratiquant l'amour, en pratiquant la charité, Jésus était le plus miséricordieux des hommes et l'exemple suprême à suivre. Jésus s'approchait des malades, il les guérissait. Il se rendait vers les infirmes et il les guérissait de leur handicap. Il rendait la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et la parole aux muets. Il approchait les collecteurs d'impôts, les femmes de mauvaise vie, les débauchés, pour les amener à la repentance et les sauver. Il rassemblait les enfants pour les accueillir sous son aile. Il ressuscitait les morts avec amour et il pardonnait à la femme adultère avec grâce. Christ est une illustration parfaite de ce que doit être la miséricorde, et Christ l'incarne parfaitement. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 17, il dit qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Christ est le souverain sacrificateur qui intercède pour nous et de qui vient la miséricorde. La miséricorde de Dieu est révélée dans toute sa grandeur dans la mort de Christ sur la croix, par laquelle il rachète le monde en ayant de la miséricorde, de la pitié, pas simplement pour le peuple élu de Dieu, mais pour tous les hommes, de toute tribu, de toute race, de tout peuple du monde. La miséricorde de Dieu, elle constitue l'un des éléments fondamentaux du salut de l'homme, n'est-ce pas, dans le plan divin. En Matthieu, chapitre 9, verset 10, il nous rappelait que comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie virent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et les pharisiens virent cela, ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Et ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Cette miséricorde de Dieu, oui, c'est un élément fondamental à notre salut, au salut de l'homme dans son plan. Et elle est inéluctablement liée au salut. C'est ainsi que Paul nous dit en Tite 3.5, « Il nous a sauvés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. » Et en 1 Pierre 1.3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » C'est la miséricorde de Dieu qui permet de nous sauver. Parce que la miséricorde de Dieu va de pair avec son pardon. Et ainsi, Daniel disait « Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon. » Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. La miséricorde est un élément essentiel du pardon de Dieu. Prenons l'exemple de Paul, n'est-ce pas, qui disait « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Paul confessait qu'il avait agi dans l'ignorance lorsqu'il persécutait les chrétiens. Mais à partir du moment où il a pris conscience du tort qu'il faisait, il s'est repenti et il demanda pardon. Et c'est alors qu'il a pu ainsi obtenir la miséricorde de Dieu. Il a été pardonné des fautes qu'il a commises. Et il est clair ici que l'obtention de la miséricorde correspond et en lien avec le pardon des péchés. Malgré nos désobéissances du péché, Dieu peut les pardonner et Dieu peut nous sauver. Dieu nous a sauvés en vertu de sa miséricorde et rien d'autre. Il nous a lavés de nos péchés, il nous a purifiés de toute injustice, il a pardonné nos fautes à cause de sa miséricorde. Et c'est la miséricorde de Dieu qui le pousse à pardonner aux hommes. Et à travers cette béatitude, Dieu invite les hommes aussi à faire de même dans leur vie. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez donc miséricordieux. Et ce commandement et cette béatitude, eh bien, elle nous amène donc à nous poser cette question. Suis-je miséricordieux? Est-ce que je fais grâce? Est-ce que je pardonne? Il n'y a pas l'ombre d'un doute que la parole de Dieu nous demande en tant que disciples de Christ de nous montrer miséricordieux. Il ne s'agit pas là d'une suggestion, d'une alternative, mais bien d'un commandement biblique. Nous avons l'obligation d'user de miséricorde. Il ne s'agit pas d'une recommandation, mais d'une ordonnance biblique qui ne nous laisse aucun choix. Et que si nous ne faisons pas preuve de miséricorde, si nous ne pardonnons pas à notre prochain ses fautes, eh ben nous ne pouvons pas nous attendre à être pardonnés. Mais si nous faisons miséricorde, eh ben nous obtiendrons miséricorde. Seuls les miséricordieux obtiendront la miséricorde. Et l'apôtre Jacques, dans son épître, eh bien renforce cette idée à propos de cette cinquième béatitude de Jésus. Et nous pouvons lire en Jacques 2,13 une affirmation dans laquelle on retrouve un contraste frappant entre la miséricorde et le jugement. Et dans ce verset, il nous dit d'abord que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et je trouvais intéressant de reprendre ce verset en plusieurs versions où il est écrit que « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Ou « Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. » Ou « Car il y aura une condamnation sans miséricorde sur celui qui n'aura point usé de miséricorde. » Ou enfin « Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. » Il n'y a pas de pitié pour celui qui se montre sans pitié envers ses semblables. Waouh, terrible, n'est-ce pas? C'est ce que veut nous enseigner la parole du débiteur impitoyable, n'est-ce pas? Dans la parole du débiteur impitoyable, on nous raconte que le maître a effacé l'énorme dette que son serviteur lui devait. Et pourtant, ce même serviteur s'est montré par la suite sans pitié envers un autre serviteur qui ne lui devait que 100 deniers, c'est-à-dire un montant tout à fait insignifiant, comparé à sa dette envers le maître. Et c'est pourquoi, ce serviteur impitoyable fut puni. Et Matthieu 18, verset 33, nous donne la raison qui justifie cette punition, où le maître dit au serviteur, « Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Et voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Wow. L'obtention de la miséricorde exige que l'on se montre miséricordieux envers les autres. Il n'y a pas de pardon pour celui qui ne s'est pas pardonné. Waouh, terrible, hein? Et à travers ces mots, on reconnaît pleinement ici la cinquième béatitude sous son aspect négatif, n'est-ce pas? Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors ça veut dire quoi? Malheureux ceux qui ne seront pas miséricordieux, car ils n'obtiendront pas miséricorde. Mais la bonne nouvelle à cela, c'est que Jacques veut nous rappeler également que Dieu est un Dieu de grâce. Et heureusement pour nous, il ne s'arrête pas là. Parce que Jacques continue sa pensée en nous présentant l'autre versant de cette déclaration. Parce que si le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde, mais à la miséricorde, elle triomphe du jugement. Et ça, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? La miséricorde de Dieu triomphe du jugement, et que celui qui témoigne de la pitié, n'a rien à craindre du jugement. Car la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu accordée aux hommes, nous délivre du jugement. Notre manque de miséricorde eh ben, ne remet pas en question le pardon reçu par Dieu une fois pour toutes lors de notre conversion. Car le tribunal de Christ ne décidera pas de notre sort éternel. Notre sort éternel a été décidé le jour de notre nouvelle naissance. Mais il aura une incidence sur la récompense que le Seigneur pourra m'accorder. Et c'est ainsi que Paul écrit aux Corinthiens, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. J'aurai donc aussi à rendre compte de mon refus de pardonner. Si je ne suis pas miséricordieux, si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont lésé d'une manière ou d'une autre, eh bien, je n'ai probablement jamais compris la grâce et la miséricorde que Dieu a exercée à mon égard. Alors il faudra me demander si, à son retour, eh bien, je devrais avoir honte devant lui. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, « Et maintenant, enfant, demeurez en lui, afin que, quand il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte de par lui à sa venue. » La grâce de Dieu agit de telle façon que, quand elle inonde mon cœur, quand elle inonde notre cœur, le remplissant du pardon de Dieu, eh ben nous devenons miséricordieux. Et nous pourrons ainsi proclamer au monde entier que nous avons reçu le pardon de Dieu, eh bien, en pardonnant aux autres. C'est parce que nous avons reçu le pardon de Dieu que nous pardonnons. Et si vous n'avez pas été profondément touché par l'amour de Dieu et radicalement transformé par sa puissance, eh bien, vous ne serez pas capable de pardonner. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi, comme Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi quand je me suis repenti, alors que je ne méritais que la condamnation à cause de ma méchanceté à son égard. Et pourtant il m'a pardonné à un grand prix. Il a remis ma dette à cause de sa compassion, parce qu'il a eu pitié du pécheur que je suis. Et toi, ne dois-tu pas pardonner aussi à ton frère, ta sœur en Christ, le mal qu'il t'a fait, aussi douloureux et profond soit-il, comme Dieu lui-même t'a pardonné, alors que tout en toi, tes faits, tes gestes, tes pensées, entachées de péché, lui en étaient en horreur. L'homme naturel ne pense qu'à ses intérêts personnels, mais pour une personne dont la vie a été bouleversée par la grâce de Dieu, tout devient différent. Elle ne voit plus la nécessité d'insister constamment sur ses droits, sur ses privilèges, sur ses intérêts, sur sa légitimité. Tout comme le Seigneur m'a pardonné, je pardonne aussi, sans condition. La grâce de Dieu a cette capacité à changer le caractère de n'importe quelle personne. Est-il vraiment possible d'être compatissant, d'avoir un cœur sensible à la misère d'autrui, de se montrer miséricordieux? Laissé à nous-mêmes, livré à nos propres ressources, c'est impossible, n'est-ce pas? Mais par la puissance de sa grâce, Dieu peut transformer nos cœurs insensibles en des cœurs remplis de miséricorde. Et si je refuse de pardonner, eh bien, je nourris la haine et il n'y aura pas de place pour l'amour dans mon cœur. Pardonner, ce n'est pas simplement oublier, ce n'est pas nier les choses. Pardonner, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de l'indifférence. Pardonner, ça ne consiste pas à dire que ce qui est grave n'est pas important. Le pardon est un acte de volonté, guidé par l'amour et nourri par la grâce de Dieu, qui consiste à accueillir le frère, à accueillir la sœur telle qu'il est, malgré le mal qu'il nous a fait, comme Dieu nous accueille, nous pécheurs, malgré nos défauts. Le pardon, pardonner, est et doit être un acte qui nous coûte à nous personnellement. Pardonner sans que cela nous touche, c'est illusoire. Cela doit venir du plus profond de nos entrailles. Vous savez, un peu à l'image de la miséricorde de Dieu dont Zacharie nous parle dans son cantique. Lorsqu'il dit « Et toi, petit enfant, en s'adressant à Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. » Magnifique, n'est-ce pas ? Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Le pardon doit venir de nos tripes. Peut-être ou certainement avec une part de souffrance de devoir pardonner le mal qu'on nous a fait. À votre avis, est-il plus facile de demander pardon à quelqu'un du mal qu'on lui a fait, ou est-il plus facile de pardonner à quelqu'un du mal qu'il nous a fait? Il n'y a pas de réel pardon sans un véritable don de sa personne. Vous savez, le mot français pardon est un lien direct avec le verbe donner. Pardon est d'abord un don. C'est un don total, entier, parfait, comme l'indique le préfixe par, n'est-ce pas, qui vient du latin per, qui veut dire complètement. Pardonner, c'est donner complètement, c'est tout donner. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que en anglais, pardonner, ça se dit forgive, pour donner. Intéressant, n'est-ce pas? Et Jésus, lui, n'a pas hésité à se donner entièrement. Et l'évangile me secoue dans la manière où Dieu me pardonne. Il me rappelle que Dieu m'a pardonné mes fautes sans attendre que je lui demande pardon. C'est lui qui a fait le premier pas d'une marche vers le pardon, une marche qui l'a conduit au sacrifice de la croix, afin que je sois pardonné. L'exemple de Jésus-Christ me dit qu'il ne s'agit pas simplement de demander pardon lorsque je suis en tort, mais d'être prêt aussi à pardonner celui qui m'offense, sans attendre qu'il me demande pardon. Même s'il serait préférable ou convenable que celui qui m'a offensé me demande pardon, eh bien, qu'il n'en soit pas ainsi, qu'importe. Accordons le pardon par avance, sans rien attendre. Et cela est possible parce que pour croire à la possibilité du pardon, il faut croire en celui qui est à l'œuvre dans nos pardons, à savoir Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est le maître absolu du pardon. En demandant au Père de pardonner, au moment même où il fut mis en croix entre deux malfaiteurs, eh ben Jésus fut cet exemple suprême où Jésus demande à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Et parce que pardonner est une des premières bénédictions reçues de Dieu qui a pardonné à travers Jésus-Christ, eh ben le chrétien est appelé à en faire autant, n'est-ce pas? Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi? Parce que de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Suis-je au-delà du pardon que Christ m'a offert? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Qu'il est bon, n'est-ce pas, de savoir que nous allons passer l'éternité avec Christ parce qu'il nous a pardonné. Mais qu'en serait-il pour moi de savoir que j'irai passer l'éternité avec le frère et la sœur à qui je n'aurais pas pardonné? Ça risque d'être long, n'est-ce pas, pour tous les deux. Nous revenons tous de loin. Nous étions tous perdus, nous étions tous égarés. Chacun suivait sa propre voie qui ne menait à rien, si ce n'est la condamnation. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a aimés, nous a tant aimés, nous a pardonnés, nous a tous pardonnés. Alors qui suis-je pour ne pas aimer celui ou celle que Dieu a lui-même aimé? Qui suis-je pour ne pas pardonner celui ou celle que Dieu a lui-même pardonner. Et si pour pouvoir pardonner, eh bien vous avez besoin d'être convaincu que Dieu vous a pardonné le premier et d'une façon parfaite, eh bien je vous propose de finir par quelques versets qui nous rappellent combien nous sommes tous des privilégiés en matière de pardon. Et c'est ainsi que la parole de Dieu nous dit en psaume 103, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Psaume 130, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Ésaïe chapitre 1, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ésaïe 55, « Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Michée 7, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Et enfin, 1 Jean chapitre 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Tel est notre Dieu, n'est-ce pas ? Un Dieu qui ne nous traite pas selon le mal qu'on lui fait, un Dieu qui ne garde pas le souvenir du mal qu'on lui fait, un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, un Dieu qui ne garde pas sa colère, un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde et à la compassion, un Dieu qui s'est donné lui-même pour nous pardonner, un Dieu qui, pour nous pardonner, a payé le prix fort en se donnant lui-même. Face à un tel amour, eh ben, nous n'avons plus d'excuses pour ne plus pardonner à notre prochain, n'est-ce pas ? Mais quelle récompense merveilleuse nous attend si nous y parvenons par la foi. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen.